Méta de choc.
Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Stream 15. Comment repérer un coaching dangereux ? Vous avez peut-être entendu parler de la dernière révolution en date dans le domaine de la formation et de l'encadrement. Elle est proposée par l'Université Paul Valéry de Montpellier, avec un Master 2 qui emmène ses étudiants et étudiantes, je cite, « vers une bienvivance et une approche du care et quantique du leadership, capacitant et vibratoire, deux points, même à distance ». Que l'on cherche à se former pour accompagner des clients et des clientes dans leur accomplissement personnel et professionnel, ou que l'on cherche soi-même à être guidé pour mener à bien un projet, il est fort difficile aujourd'hui de distinguer les offres sérieuses, des messages joliment emballés certes, mais désespérément creux, voire dangereux. Notre esprit critique est mis à rude épreuve face aux propositions quotidiennes de stages, d'essais gratuits et de solutions révolutionnaires, qu'elles émanent d'un coach certifié, d'un mentor bienveillant, d'une grande entreprise ou d'une université. Alors, comment faire le tri sur ce marché foisonnant du coaching où des méthodes réellement utiles côtoient le pire de la charlatanerie et des pseudosciences ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, dans cette émission, vous aurez droit à des conseils, des repères, des pro-tips. Parce que se poser des questions, c'est bien, mais parfois, avoir des réponses, ça réchauffe le cœur. Vous voyez, je vous soigne. Ce que vous vous apprêtez à entendre est la rediffusion d'un space qui a eu lieu sur Twitter en mai 2023 et dans lequel je suis intervenue sur invitation du collectif AVI. AVI comme aide aux victimes des influenceurs. Cette association a pour but d'assister les victimes dans leur recours, notamment en montant des actions juridiques collectives, et d'alerter et communiquer sur les dérives de l'influence auprès du grand public, des médias, des autorités et des responsables politiques. Ce groupe d'anonymes récemment constitué a déjà réalisé de grandes choses puisqu'il a accompagné plus de 100 personnes dans leurs plaintes contre des influx voleurs, comme ils aiment à les appeler, et a contribué à rien de moins que l'élaboration de la loi de régulation des métiers de l'influence de juin 2023. C'est quand même la classe. Alors entendons-nous bien, il n'est pas question ici de dire que tous les coachs et que tous les influenceurs sont des escrocs ou des gourous dangereux, mais de se pencher sur les offres de coaching toxiques qui fleurissent sur les réseaux et ailleurs pour vous aider à les identifier et à vous en prémunir. La tâche n'est pas facile, mais je pense qu'elle mérite d'être tentée. Je vais donc commencer par passer en revue les techniques de manipulation mentale les plus courantes, pour ensuite analyser trois cas concrets trouvés sur Internet, parce qu'il n'y a rien de tel qu'un exercice pratique pour prendre conscience des signes qui doivent alerter. Pour pleinement profiter de cette heure de prévention, je vous propose donc de tenter de débusquer ce qui vous paraîtra suspect dans les descriptions et mots de vocabulaire énumérés, avant bien sûr que j'en fasse l'analyse. L'émission se poursuit par quelques questions du public, très intéressantes vous verrez, et l'intervention d'une professionnelle de la formation qui nous éclairera sur les dessous des certifications RNCP et Calliope. L'organisateur de cette conversation n'a pas voulu donner le nom des cas étudiés, parce que l'objectif n'est pas de faire du débunkage, mais de profiter de ces exemples pour mieux comprendre nos processus cognitifs et ce qui nous rend vulnérables face aux offres de coaching problématiques. Alors, parmi les cas étudiés, il y a celui d'une grande figure francophone du moment, et comme je sais que vous êtes joueur et curieux, je dévoilerai son nom en générique de fin. Merci donc à celles et ceux qui l'auront reconnu de ne pas le divulgâcher en commentaire. On se lance ?
Pour commencer, Elisabeth, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet de la manipulation mentale dans le coaching ?
Alors, moi, au départ, la manipulation mentale, j'y suis venue par mon intérêt pour l'auto-manipulation, c'est-à-dire comment, finalement, tous, autant qu'on est, on peut s'auto-manipuler, on peut se raconter des histoires et quelquefois se faire souffrir, quelquefois, de manière très grave. Alors, bien sûr que finalement, c'est très lié à la manipulation extérieure, la manipulation par le coaching, la manipulation dans des dérives sectaires ou autres, parce que finalement, les manipulateurs jouent aussi sur notre auto-manipulation. Ils jouent sur le fait que on a envie que ça marche. On a envie d'avoir trouvé la bonne solution à nos problèmes, par exemple. Voilà, donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Après, plus précisément sur le coaching, il faut savoir que moi, j'ai été thérapeute. Alors, j'ai pas été coach, mais j'ai été thérapeute d'une pratique alternative à un moment donné parce que moi-même, j'étais croyante et pratiquante dans le New Age, les croyances autour de la loi de l'attraction et des énergies, etc. L'univers est amour. Et donc, j'avais suivi une formation qui fait que j'ai aussi pas mal navigué dans ce milieu-là. Et puis enfin, j'ai fait une émission qui s'appelle Coaching, l'Eldorado de la manipulation mentale, pour laquelle je me suis beaucoup documentée pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. J'en ai aussi reparlé après à l'occasion d'une autre émission sur l'entreprise, sur les techniques quelquefois un peu douteuses qui peuvent être utilisées en formation, en management. Et je compte en reparler prochainement aussi et donc me documenter encore plus, mais là sur le côté plus coulisses du coaching, comment les grands gourous du coaching en fait travaillent. Comment ils travaillent au niveau de leurs équipes et comment ils gagnent de l'argent comme ça. Voilà.
Moi, ça m'a particulièrement marqué quand j'ai écouté cette série sur justement la manipulation dans le cadre du coaching. Donc, c'est 3 podcasts d'une heure. C'est assez fort et c'est extrêmement dense en information. Moi, je vous encourage vraiment à faire la découverte de ce passage parce que on a vraiment un exemple très vivant. Plus vraiment, l'invité que vous aviez pour cette émission était remarquable dans sa pédagogie et dans son récit. Et donc, on voit particulièrement bien comment même lui, qui connaît déjà un petit peu, pour des raisons professionnelles, des techniques de vente et des techniques de manipulation, il va se retrouver quand même, malgré tout, sensible à la manipulation qu'il va subir durant toute une session de coaching un petit peu bizarre. Et moi, ça m'a amené à me dire, mais quelqu'un comme lui, qui est sur le point de se faire avoir, et bon, il y a un événement à la fin qui va faire que non, il va pas tomber dedans. Ça m'a laissé penser que finalement, on était tous sensibles à des degrés divers à la manipulation. Je me trompe?
Oui, c'est tout à fait le message d'ailleurs de cette émission. Et mon invité, qui est un professionnel du marketing et du design en entreprise et qui connaît bien toutes ces questions de publicité, de manipulation au sens large, d'influence, lui pensait être immunisé contre ça. Invulnérable, et il s'est rendu compte par son expérience personnelle que c'était pas le cas, et après il s'est documenté et on en parle dans l'émission. Finalement, on est tous susceptibles de tomber dans le panneau parce que la manipulation, elle va en fonction de ses arguments et en fonction du domaine que ça touche, elle va nous parler plus ou moins. C'est-à-dire que moi, par exemple, je m'intéresse pas au yoga personnellement. Donc s'il y avait une manipulation qui serait orchestrée par le yoga, sans doute que ça ne me toucherait pas. Par contre, si ça touche à un de mes centres d'intérêt ou à un problème que je rencontre actuellement dans ma vie ou dans mon travail, et donc là, on peut raccrocher les wagons avec le coaching, par exemple, eh ben, peut-être que là, je vais me laisser séduire parce que ça va me parler. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que finalement, comment résister à quelque chose qui nous parle, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à notre quête du moment? Ben, en fait, on ne peut pas ou très, très difficilement y résister. Donc, on est tous susceptibles, en fait, de se faire avoir.
Alors, en écoutant son témoignage, quand même, à votre invité, donc, qui s'appelle Rémi, de mémoire, moi, je me suis quand même demandé, mais est-ce que c'est vraiment représentatif, son histoire? Parce que c'est quand même très particulier, c'est un truc qui se passe aux États-Unis, il est dans une espèce de grande convention où il y a plusieurs milliers de personnes, et effectivement, on voit des techniques à l'œuvre qui sont assez hallucinantes. Et je me suis dit, bon, là, c'est un peu à l'américaine, c'est un peu gros, mais est-ce que vraiment c'est représentatif de ce qu'on peut voir par ailleurs?
Oui et non, en fait. Finalement, ce grand coach américain qui fait sa grand-messe, OK, c'est très chaud américain, etc., et peut-être qu'on trouvera moins ça en France, quoique. Mais en fait, c'est par ce type de réseau que les coachs, souvent, sont formés. Et c'est avec le même type d'arguments, le même type de techniques motivationnelles, de sortie de zone de confort, etc. On va en fait avoir beaucoup de coachs qui passent entre les mains de ce type d'hyper-coach, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui se transmet beaucoup dans ce milieu-là, dans le milieu du coaching. Ce type de méthode, on les retrouve très souvent. Alors, bien sûr que on va avoir quelque chose de beaucoup plus édulcoré. Souvent, le coaching se fait de personne à personne. Donc, c'est souvent plus des choses individuelles, quelquefois en petits groupes, mais rarement, effectivement, en convention, plusieurs milliers de personnes. Mais souvent, le coaching utilise des outils tout à fait similaires. Donc, je parlais des outils motivationnels. On va avoir la PNL, par exemple, la programmation neurolinguistique, qui est très, très, très souvent mise en avant comme un argument disant, je suis maître en PNL, donc fiez-vous à mes conseils, alors que la PNL est une pseudo-science qui repose malheureusement sur beaucoup de mythes scientifiques, qui ne sont donc pas scientifiques, et de méthodes qui n'ont pas pu prouver leur efficacité, même si la PNL peut regrouper aussi des techniques plus connues de psychologie et qui restent valables. La PNL, en tant que telle, n'apporte rien de particulier et souvent même peut porter préjudice aux personnes qui l'utilisent ou sur lesquelles on utilise la PNL. Donc, on utilise aussi des techniques de vente. On retrouve des techniques de vente dans ce fameux stage qui est décrit dans mon émission, qu'on peut retrouver aussi utilisées par les influenceurs, par les coachs, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je dis oui et non, parce que la méthode stricto sensu qui est utilisée dans une grande convention avec des milliers de personnes, on la trouve peu en France, même si on peut trouver ça quand même chez David Laroche, par exemple, ou chez David Lefrançois, et des personnes qui sont très connues dans le coaching font souvent des grands messes comme ça. Mais voilà, même à petite échelle, on peut retrouver un peu les mêmes méthodes, parce que tout simplement, elles sont vendues dans le milieu du coaching comme efficaces.
Ça veut dire que s'il y a des points communs entre ce grand gourou du coaching aux États-Unis et ces coachs, on va dire, plus à échelle humaine en France, ça veut dire qu'il y a des points communs, il y a des pièges, il y a des techniques assez classiques qu'on peut reconnaître?
Si on parle des manipulateurs, parce qu'évidemment, comme vous le disiez, on n'est pas en train de dire que tous les coachs sont des manipulateurs ou des arnaqueurs, loin de là. Il y a énormément, et la majorité, plus que la majorité des personnes qui proposent du coaching, qui sont tout à fait sincères. Mais si on part du profil d'une personne qui serait dans une manipulation, on va retrouver des pièges classiques ou des techniques, on va dire, des techniques classiques. Alors, je peux vous en citer quelques-unes. On les énumère d'ailleurs pas mal dans l'émission, et là, je vais vous en donner quelques-unes, mais vous pouvez vous référer aux ressources qu'on retrouve sur la page de l'émission sur le site metachoc.fr. Par exemple, il y a la technique de l'étiquetage. Alors ça, c'est très, très courant et ça passe relativement inaperçu. Si on vous dit « vous faites partie de l'équipe rouge » ou « vous faites partie des gagnants » ou « vous êtes une personne inspirante », voilà, on va vous étiqueter. On va vous dire « tu as un très grand potentiel ». On vous étiquette. Ça, c'est quelque chose qui fait que vous allez être plutôt flatté ou vous dire « tiens, j'appartiens à ce groupe-là qui est différent des moutons », on va dire, si on caricature un peu. Différent du tout venant. Et finalement, le fait de vous valoriser de cette manière-là va faire que vous allez vous attacher soit au formateur, au coach, soit à une technique, à une pratique, et que vous allez y revenir plus facilement. Une autre chose qu'on retrouve beaucoup, c'est le pied dans la porte. Et là, les noms que je vous donne, c'est des noms de psychologie sociale. Hein. C'est des choses qui sont étudiées scientifiquement et qui ont des noms bien précis. La technique du pied dans la porte, c'est ce qu'on retrouve beaucoup quand on vous dit « ah, mais... si vous voulez essayer, vous pouvez faire une séance gratuite. » Et puis, vous voyez, ça vous engage à rien. Vous verrez, si ça vous plaît, vous pouvez continuer. En réalité, ça vous engage beaucoup. C'est-à-dire que les études en psychologie sociale montrent que ce fameux pied dans la porte et le fait qu'on vous propose une première action ou un premier engagement, même s'il n'est pas financier, va faire en fait que derrière, il y a beaucoup plus de chances que vous y retourniez. Donc, statistiquement, ça a été étudié sur des échantillons très larges de personnes. Si on fait une première action gratuite qui semble ne pas nous engager, eh bien, on a beaucoup plus de chances d'aller voir le coach en question, par exemple, qui nous a proposé cette séance gratuite, que de ne pas aller le voir. Hein, la probabilité augmente énormément.
Oui, je me souviens en exemple un petit peu terre à terre qu'on donne de temps en temps sur cet élément-là, que de temps en temps aussi on peut appeler engagement, c'est le fait de, par exemple, vous allez voir quelqu'un dans la rue, vous lui demandez l'heure, il vous donne l'heure, et après... c'est plus facile de lui dire « bah tiens, tu peux pas me dépanner de 1 ou 2 euros ». Parce que effectivement là, déjà, il y a un premier contact qui a été noué, et puis il y a une envie de rester cohérent avec soi-même, dire « bah oui, j'ai commencé à rendre service à cette personne, donc je vais continuer à lui rendre service ».
Oui, il y a plusieurs choses que vous nommez là. Il y a l'escalade d'engagement qui fait que plus on va faire quelque chose et plus on est engagé dans cette chose, on a passé du temps, on a donné de l'argent, etc. Et plus on va s'engager. En termes de probabilité, on va plus s'engager. Mais il y a aussi le besoin de cohérence, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que même si finalement on a fait une erreur, on va avoir beaucoup de mal à l'admettre. Et on va préférer, plutôt que de se dire qu'on a fait une erreur, se dire... ben non, qu'on a fait le bon choix et on va se le prouver à soi-même. Et c'est là qu'on rejoint la notion d'auto-manipulation que je citais dès le début. Donc le besoin de cohérence nous amène à nous auto-manipuler finalement pour se dire qu'on a fait les bons choix. Voilà. Alors après, il y a d'autres choses hein, qu'on retrouve aussi beaucoup avec les influenceurs et qu'on peut trouver aussi dans le coaching, c'est des promesses incroyables. Hein, donc il y a des coachs qui disent clairement sur leur site web, vous pouvez multiplier vos revenus par 100, ou vous pouvez atteindre en un mois un revenu à 5 chiffres, ou des choses plus éthérées, hein, qui peuvent être, vous pouvez trouver l'harmonie dans tous les domaines de votre vie. Et là, quand vous avez des promesses qui touchent à plein de choses, à plein de domaines différents, comme ça va résoudre vos problèmes personnels, de santé, professionnels, amicaux, etc., bon, ben là, déjà, ça doit alarmer, parce qu'il n'y a aucun coach qui peut répondre à toutes ces problématiques-là. Après, il y a aussi une autre chose sur laquelle il faut faire très attention en coaching, c'est l'appel à la science. Très souvent, on entend des discours où on va nous dire c'est prouvé par la physique quantique, ou c'est prouvé par les neurosciences, ou c'est prouvé par l'épigénétique. Alors là, il faut dresser l'oreille parce qu'en général, c'est faux. En général, ce n'est pas le cas. D'abord, la physique quantique ne prouve rien qui puisse être applicable dans la vie de tous les jours et encore moins en termes de psychologie ou de sociologie ou de management d'entreprise. Ça, c'est clair et net. Donc, la physique quantique n'a rien à voir avec le coaching. La deuxième chose, c'est que les neurosciences aujourd'hui sont très peu applicables concrètement, même si elles nous permettent petit à petit, au fil des années, des décennies, de mieux connaître le fonctionnement de notre cerveau. Il y a très, très peu d'applications, voire quasiment aucune application concrète, hein, à ce qu'on découvre dans les neurosciences. Et bien souvent, quand on parle de neurosciences en coaching, c'est pour nous mettre en avant ce qu'on appelle des neuromythes, c'est-à-dire des choses qui sont en fait fausses. Pour vous donner un exemple, parler de cerveau droit et de cerveau gauche, c'est absolument pas scientifique, ça n'existe pas. Les neuroscientifiques vous diront que il n'y a pas de différence entre cerveau droit et cerveau gauche, qui serait plus créatif ou plus intuitif, et l'autre qui serait plus carré, par exemple, etc. Donc ça, déjà, quand on vous parle de cerveau droit, cerveau gauche, vous pouvez aussi dresser l'oreille. On est dans des neuromythes, des pseudosciences.
Alors, est-ce que on peut justement regarder plus spécifiquement les recettes qui sont appliquées par les influenceurs du coaching sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu spécifiques? Par exemple, si je me rends sur la page Instagram d'un coach, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me faire tiquer, qui peuvent m'alerter?
Alors, l'appel à la science, c'est vraiment un premier truc qu'on voit très, très souvent. Et tout de suite, si un coach vous parle de choses scientifiques telles que je viens de vous les nommer, là, il y a un problème. Par contre, si la personne vous dit « j'ai une formation, j'ai fait des études de psycho » ou « j'ai une formation en psychologie sociale ou en sociologie ou en management », pourquoi pas? Là, on est dans des domaines scientifiques, mais qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on peut attendre d'un coach. Et tant mieux, et c'est génial, si un coach peut utiliser des connaissances vraiment scientifiques en psychologie, en sociologie et en management. Ça, oui. Après, quand on vous dit qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort, ça aussi, c'est problématique. Parce que très vite, quand on vous demande de sortir de votre zone de confort, eh ben, vous perdez vos repères personnels. Ça veut dire qu'on peut vous faire avaler des choses, on peut vous faire faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui peut-être ont de bonnes raisons de ne pas être faites, comme dépenser beaucoup d'argent, comme vous retrouver dans une situation où vous allez devoir faire des choses ou partager des choses intimes alors que bah, vous n'êtes pas forcément venu pour ça. Et ça, ça se voit pas forcément sur la page Instagram, donc je réponds pas vraiment à la question pour l'instant, mais c'est des choses qu'on peut vous demander en stage et qui peuvent être facilement dangereuses. Parce que,
je propose, Elisabeth, qu'on prenne un exemple concret, justement, d'une page Instagram où je vais lire en quelques mots la bio, la présentation, et puis on va voir un peu ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut identifier. Alors, là, j'ai une coach qui met sur sa bio « Coaching personnel et professionnel, séance 1 à 1 en visio ». Et en réel, à un endroit, à une ville que je ne citerai pas, le but, c'est pas de spécialement exposer une personne. Hashtag coaching PNL, hashtag bilan de compétences, hashtag Reiki, inconscient, conscient et énergétique, backstage de ma vie d'humaine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça?
Alors, déjà, on a PNL, bilan de compétences Reiki. Ça, c'est un bon petit cocktail qui marche pas trop. Parce que d'un côté, on a la PNL, donc je viens d'en parler et je pourrais le développer s'il y a des questions là-dessus, qui est une pseudo-science, donc qui, bah, malheureusement, n'apporte pas de réels résultats quand on cherche soit à améliorer sa vie personnelle, soit à améliorer sa vie professionnelle. Ensuite, on a bilan de compétences. Donc là, on a un aspect sérieux. Hein. Bon, la PNL fait sérieux aussi quand on connaît pas. Mais bilan de compétences, là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Et puis, mêlé avec un troisième ingrédient qui est le Reiki, et là, on a une dimension beaucoup plus spirituelle, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce que vous avez cité ensuite, qui était conscient-inconscient énergétique. Donc là, c'est vraiment un aspect New Age. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de mes anciennes croyances. À partir du moment où on mêle des questions spirituelles, hein, parce que là, l'énergétique renvoie à des croyances spirituelles, eh bien là, c'est quoi le coaching spirituel, hein? C'est être une meilleure âme, c'est mieux s'incarner sur Terre. D'ailleurs, quand elle dit ma vie, enfin, je sais plus ce que vous avez dit, ma vie d'humaine, ça, c'est du vocabulaire très New Age. Hein, c'est en tant qu'humaine, incarnée sur Terre, voilà, j'ai une expérience de ma divinité limitée dans la 3D, les trois dimensions de la vie humaine et non pas dans la 5D de personnes éveillées ou de personnes qui exprimeraient totalement son potentiel divin. Donc là, moi, mon diagnostic, c'est une personne qui mélange plein de choses. Alors du coup, moi, ça me fait me demander si elle a vraiment des compétences pour le bilan de compétences au vu des autres choses qu'elle met en avant.
Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. C'est ça aussi qui est parfois un peu troublant, c'est que dans tout ce qui peut vous être dit, tout n'est pas forcément faux. Il peut y avoir des vrais outils efficaces qui sont proposés au milieu d'un océan de choses beaucoup moins claires.
Oui, tout à fait. Et après, le problème, c'est que les personnes croyantes, parce que comme je disais tout à l'heure, les gens sont souvent sincères, hein, le profil que vous nommez n'est pas forcément une personne qui veut arnaquer les gens, qui veut les manipuler, mais souvent, les personnes sincères vont mêler des choses qui sont sérieuses avec des choses qui sont beaucoup moins et qui peuvent poser problème au client ou à la cliente. Et je dis ça parce que quelquefois, on peut se dire « Oh, mais c'est pas grave, je vais prendre juste le bilan de compétences, je vais pas prendre la PNL, je vais pas prendre le Reiki ». Et peut-être que ça ira très bien. Mais bien souvent, en fait, en tant qu'humain, si je peux reprendre cette expression, finalement, on a beaucoup de mal à dissocier ce qui est de l'ordre de la croyance de ce qui est de l'ordre du carré, du matériel et du prouvé. Que ce soit en tant que client ou cliente ou que ce soit en tant que praticien, on a une difficulté à cloisonner, en fait, hein, ces champs-là. Et d'ailleurs, puisque vous m'aviez donné le lien avant ce space, j'ai été voir un peu son profil Instagram à cette personne et on voit bien qu'elle parle d'harmonie avec la nature, de reliance, d'amour de l'univers. Donc là, vraiment, la partie spirituelle est quand même très prégnante sur son profil et on retrouve des choses motivationnelles de coaching, lâcher prise, mission de vie, qui est très New Age aussi. Hein, la mission de vie, c'est la personne qui est venue s'incarner sur Terre pour une raison bien précise, il n'y a pas de hasard. L'alignement, donc là, on retrouve les questions d'énergie, de chakra. Et justement, elle propose un appel découverte gratuit. Et elle met en avant des témoignages de personnes qui ont beaucoup apprécié ses services. Et évidemment, quand on commence à s'intéresser aux questions de manipulation, on apprend assez vite que les témoignages n'ont pas vraiment valeur de preuve. Donc, il faut faire attention quand il y a beaucoup de témoignages qui sont mis en avant. C'est pas une preuve. Et même si c'est très tentant et que quand on lit les témoignages, on peut s'y retrouver, il faut essayer de garder du recul par rapport à tout ça parce que un témoignage, ça peut s'inventer. Et même s'il n'est pas inventé, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a une personne qui était satisfaite, que c'était pour de bonnes raisons. Peut-être que cette personne est satisfaite parce que elle est très enthousiasmée par cette séance de Reiki et peut-être pas vraiment par le bilan de compétences. Peut-être pas que sa situation professionnelle s'est vraiment améliorée.
Je vous propose qu'on s'en prenne un autre, cette fois-ci avec un profil qui est beaucoup plus populaire, qui est suivi par plusieurs centaines de milliers de followers. Donc c'est pareil, on va pas dire qui c'est pas l'intérêt. Donc c'est un profil de quelqu'un, d'une femme, qui se présente entrepreneur, se révéler, rayonner, impacter. Elle propose un livre, « Déployer l'amour de soi », un podcast, et elle nous propose de cheminer avec elle. Alors, est-ce qu'avec ces quelques mots, a priori pas très méchants, a priori assez enthousiasmants, est-ce que déjà il y a des choses qui vous semblent problématiques là-dedans ?
Alors là déjà, on joue tout de suite avec du vocabulaire spirituel, hein. Rayonner, cheminer avec moi. Là, on a quand même du vocabulaire déjà de la spiritualité, mais un peu light. Donc il faut creuser pour aller voir vraiment ce qui se passe. On a aussi du vocabulaire, donc là, plus de coaching, hein, se révéler, impacter, et un podcast où on imagine que la personne va nous donner quelques secrets, quelques recettes. Après, si on scrolle un peu sur la page Instagram, quand on regarde dans le détail, on va voir les notions de yin et de yang. Donc là, c'est aussi quelque chose de spirituel qui se réfère à la spiritualité orientale, mais qu'on retrouve énormément dans le New Age, dans la spiritualité contemporaine. Cette personne, en réalité, ne se présente pas comme coach. elle dit qu'elle n'est pas coach, mais qu'elle est mentor. Alors ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour elle, parce que finalement, elle n'a même pas besoin de dire qu'elle a des méthodes particulières, des techniques, parce qu'elle est mentor. Et qu'est-ce que c'est qu'un mentor ? Ben, c'est une personne qui est un modèle, tout simplement. Donc elle se présente comme modèle. Si ça vous inspire, alors tout va bien. Ça veut dire que ben, vous pouvez tirer des enseignements de la vie qu'elle nous montre qu'elle a. Alors, elle vit quand même, quand on regarde ses photos, dans un lieu paradisiaque. Alors, elle est très jolie, hein, bien sûr, elle pose avec tout un tas d'habits à chaque fois super sexy, tout en ayant l'air de pas l'être, hein, avec une pseudo-décontraction. Elle nous montre aussi des photos avec son compagnon, qui lui aussi est très beau, des plages paradisiaques. Elle nous montre aussi en train de travailler, mais aussi dans l'eau, autour de palmiers, etc. Voilà, bon, on a quelqu'un qui finalement prend pas trop de risques en disant qu'elle est mentor et qui va capitaliser bah, sur sa beauté, sur le lieu dans lequel elle habite. Et bah, si on s'arrête là, bah, on peut quand même légitimement se poser la question qu'est-ce que ça peut m'apporter de suivre une telle personne ? Qu'est-ce qu'elle va vraiment m'apporter de concret ? Alors, elle propose, ça je l'ai vu il y a quelques mois, je ne sais pas si elle continue à le faire, des soirées méditation pour bah, dépasser ou atteindre des niveaux de conscience. Donc, je parlais tout à l'heure de la 5D, la cinquième dimension. Et là, on va vraiment voir une application concrète de l'aspect spirituel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous disiez qu'elle a plusieurs centaines de milliers de personnes qui la suivent. Et bah, elle demande, pour la participation à un live de méditation qui permet de dépasser des niveaux de conscience, elle demande 20 euros à chaque personne. Donc, on peut bien comprendre que assez rapidement, il y a de quoi se faire beaucoup d'argent pour cette personne. Et avec des techniques qui, finalement, ne sont pas très, très concrètes. Des promesses qui sont très floues et très larges, on va dire.
Oui, parce que ça consiste à se rééquilibrer, à mettre la lumière dans sa vie, à rejeter l'ombre. C'est des choses qu'on voit pas mal dans ce qu'elle propose. Alors, vous disiez, elle dit qu'elle n'est pas coach, mais elle propose du coaching quand même, hein.
Oui, alors bon, après, moi je vous dis ça, j'ai entendu ça dans son podcast il y a quelques mois encore. Peut-être qu'elle change régulièrement de vocabulaire, j'en sais rien.
Elle continue à dire qu'elle n'est pas coach, tout en proposant du coaching.
D'accord, ouais, bon, bah, c'est pas étonnant, hein. Enfin, il n'y a pas de souci, le flou artistique ne tue pas et attire le chaland, manifestement. Hein.
Alors, est-ce qu'on peut se résumer, à partir de ces petites expériences, vraiment quelques red flags, quelques points qui doivent vraiment nous alerter si, bah voilà, si on a très envie de faire appel à une formation de développement personnel, à du coaching, quelles sont les choses que je dois repérer et sur lesquelles je dois me dire « Oh, attention !»
Alors, soit les promesses très floues, comme on vient de le voir, soit les promesses exubérantes que j'ai citées tout à l'heure en termes de revenus ou en termes de « voilà, vous allez retrouver l'harmonie avec votre partenaire », avec force témoignage qui prouve que c'est possible. Des engagements sur le long terme. Je pense à certaines personnes qui sont coachs et qui proposent un engagement sur le long terme. C'est-à-dire, vous allez devoir payer tous les mois, par exemple. Et si jamais vous vous interrompez à un moment donné, parce que vous voulez réfléchir, parce que vous voulez faire une pause, parce que vous n'avez plus les moyens, eh ben, si vous voulez revenir dans le circuit du coaching, vous allez devoir retourner à l'étape zéro. Ça, c'est vraiment problématique. Hein. Là, on se dit, il y a vraiment un souci. Qu'est-ce qui peut justifier ça, puisque vous avez déjà suivi le coaching pendant plusieurs mois, vous avez déjà franchi certaines étapes. Qu'est-ce qui peut justifier que vous retourniez à la case départ si jamais vous faites une pause ?
Bah, je pense que là, on a vu un petit peu, effectivement, ces points sur la spiritualité, par exemple, que vous avez pas mal souligné. C'est-à-dire, le mélange des genres, c'est quand même un truc très, très gênant, quoi. Voilà, si on est là pour avoir des outils méthodologiques, si on est là pour avoir un petit besoin de validation, de boost de motivation aussi, parce qu'un coach, c'est aussi là pour ça, on voit pas trop le lien avec la spiritualité New Age.
Disons que cette personne va attirer, elle, des personnes qui sont intéressées par la spiritualité, mais ou alors elle va les y introduire, ça c'est possible aussi, mais c'est vrai que pour résoudre des problèmes personnels, on est rapidement dans des choses très vagues, hein, pas très concrètes. L'autre chose aussi, c'est quand on cherche un coach professionnel, parce que à la limite, quand on est dans un coach personnel qui s'amène de la spiritualité, bon, bah, chacun trouve midi à sa porte, même si, bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un coaching spirituel ? Je ne sais pas. Mais allons-y, soit la personne veut un coaching personnel, pourquoi pas. Mais si on est dans du coaching professionnel, et je l'ai vu très très souvent proposé en entreprise, et même dans de très grandes entreprises, si là on a un coaching qui se présente comme professionnel, mais qui va avoir des arguments spirituels, là pour moi c'est un red flag, il y a vraiment un souci. Parce que non seulement ça ne correspond pas aux besoins d'entreprise, mais en plus ça veut dire qu'on est dans de l'endoctrinement spirituel dans le milieu de l'entreprise.
On mettra le lien vers le dernier rapport de la MIVILUD, qui est donc la mission de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires, qui a tout un chapitre, ce rapport, dédié au développement personnel et au coaching, puisque justement, dans les techniques de manipulation qu'on a un petit peu évoquées, là, qu'on a survolées, il y a des techniques qui sont apparentées à des dérives sectaires, et donc ça veut dire que ça peut vraiment aller loin, ça peut... C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent vraiment se retrouver enfermés dans un système qui va les couper de leur entourage, qui va les ruiner. Et ce phénomène a conduit la MIVILUD à faire ce chapitre dédié au coaching et aux dérives du développement personnel, où vous avez notamment toute une liste de questions à vous poser au moment où vous êtes engagé, où vous êtes sur le point de vous engager dans l'achat d'un coaching ou d'une formation de type développement personnel.
Il y a aussi une autre chose qui est beaucoup utilisée en coaching et qu'on voit pas tout de suite venir, mais qui arrive assez vite, c'est la crainte puis soulagement. C'est le nom de cette technique-là. C'est le fait que tout à coup, on va avoir peur, et je parlais tout à l'heure du fait de ne pas vouloir quitter une formation parce qu'on risque de perdre les avantages qu'on a acquis. Mais même avant ça, le fait d'avoir peur de passer à côté d'une promo, le fait de passer à côté d'une super opportunité, ou le fait que le coach va nous dire « Attention, là, t'es en train de faire un truc, c'est hyper risqué ». Et derrière, de venir avec une solution, le soulagement. Ça, c'est une vraie technique aussi de manipulation qui fait qu'on va avoir tendance à aller acheter ce que l'on nous propose. La peur.
Merci beaucoup pour ces réponses, Elisabeth. Alors, on va donner un petit peu la parole aux auditeurs. Et donc, il y a Sarah qui demande la parole depuis quelque temps. Sarah, bonsoir.
Bonsoir. Voilà, moi, je voulais réagir par rapport au dernier profil que vous avez commenté. J'ai reconnu la personne qui était derrière le profil. Moi, par exemple, à l'époque, quand j'ai commencé à la suivre, je me suis rendu compte qu'elle nous amenait vers une direction. Et puis, en fonction de son changement à elle, ça repartait dans une autre direction où elle disait, ouais, mais tout compte fait, c'est acceptable, etc., de changer, etc. Et ce qu'il y avait aussi, c'est qu'elle faisait fabriquer des vêtements avec des matières coton, des choses comme ça, au Maroc. Et elle vendait ça extrêmement cher. Donc, c'était des trucs qui, à mon avis, ont été faits par des femmes au Maroc pour pas très cher. Mais quand on regardait le prix sur le site avec lequel elle voulait vendre ses produits, c'était énorme. C'était même au-delà des prix qu'on peut trouver dans les enseignes des magasins de vêtements. Donc, il y avait ça. Donc, c'est pas uniquement le côté spirituel, il y a aussi un côté business derrière. Et puis, elle parle aussi beaucoup de son lifestyle sportif et de sa relation avec son
compagnon. Ouais.
Son compagnon et de ses questionnements à elle, du sport aussi, parce qu'elle est fort copine avec des influenceuses qui sont plutôt des influenceuses sportives. Et donc, c'était un melting pot de plein de choses. Et ici aussi, ma deuxième réaction, c'était par rapport à la manipulation, plus par rapport à elle maintenant. Par exemple, je pense qu'on l'entend un petit peu, moi, je suis belge. Et en fait, à un moment donné, il y avait des assurances qui recrutaient des gens. Enfin, c'est un fonds qui était pyramidal, qui a disparu, je pense, depuis. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jouaient justement sur ce coaching personnel, les gens qui commencent à se tenir les mains, à se taper. Enfin, en fait, c'est tout ce qu'on voit dans les rituels d'Anthony Robbins, par exemple, aux États-Unis. Eh ben, ils le reprenaient pour créer une forme d'adhésion. On avait l'impression de rentrer dans une secte. Et il y avait des gens qui devenaient justement des pions de ce système et qui devaient recruter des gens en dessous d'eux et ainsi de suite. Et on voyait justement la même dynamique avec les influenceurs. Un gourou qui montre que il était paumé au début, que maintenant, il roule dans des grosses voitures, qu'il a réussi sa vie en quelques mois, tous des trucs comme ça. Et donc, les gens adhèrent au projet et commencent à recruter à gauche, à droite, dans les universités, des étudiants qui sont allés en galère, qui finissent par se casser la gueule aussi avec ce truc, et ainsi de suite. Donc, je trouve que le coaching est parfois fort utilisé par les influenceurs ou par les gens qui veulent vendre des choses derrière.
Les techniques de vente, en tout cas. On retrouve les techniques de vente.
Oui, c'est ça.
Et dans ce que vous dites, il y a vraiment une chose que j'ai oublié de dire et qui est tout à fait classique chez les coachs qui n'ont pas forcément une vraie formation solide. Ils mettent en avant leur expérience personnelle. Donc, ils disent « Moi, j'ai connu 3 burn-out. Je vais maintenant accompagner les personnes qui sont dans un burn-out. » Et malheureusement aussi, vont proposer des accompagnements complètement en dehors de leurs compétences. Donc, un burn-out, ça se traite pas avec un coach. Un burn-out, ça se traite avec une personne qui est diplômée en psychologie ou psychiatre. Mais ça va aussi avec quelquefois même des traitements de l'anxiété, de la dépression, des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc là, ça devient dangereux. Et le fait de se présenter en modèle parce qu'on a vécu une épreuve dans la vie et qu'on en est sorti, ça n'est pas du tout la preuve du fait qu'on utilise des outils efficaces, en fait.
Mm-hmm. Mais ça le laisse sous-entendre, justement.
Absolument. C'est un argument de vente.
Voilà. Et ce qui est un peu problématique, je pense, dans les démarches psychothérapeutiques, c'est que, par exemple, les psychiatres ou les psychologues se distinguent de la démarche du coach. Ils disent, nous, on est là pour poser un diagnostic ou pour vous écouter et faire en sorte que la solution vienne de vous. Le coach est plutôt, j'ai des outils pour que tu puisses t'en sortir. Et donc ça, c'est une démarche qui est totalement différente, dans le sens que, parfois, on va sentir que la psychothérapie n'est pas suffisante. Et donc là, on va commencer à aller chercher à gauche, à droite. Et comme ce n'est pas forcément bien réglementé, je pense, il y a des fédérations, ça je sais, mais le fait que ce soit pas cadré fait que n'importe qui peut s'improviser coach et mettre en avant des choses qu'il a faites dans le passé, qui ont peut-être même pas marché, mais ça, la personne ne le sait pas. Et donc, se retrouver avec un coach qui, au final, ne comprend rien à la dynamique et à ce qu'on recherche, en fait, comme outil. Et ça coûte énormément d'argent. Et souvent, comme vous aviez dit au début, il justifie le fait par « Oui, si tu veux progresser, investis en toi ». C'est un peu comme le discours de Marc Blatta quand il disait « Oui, vous mettez 500 euros dans une paire de baskets, c'est mieux d'investir en vous et de mettre ça dans du copy trading, machin. » C'est plus ou moins la même chose quand on entend les gourous des formations e-commerce ou de développement personnel. C'est toujours l'argument qui revient. C'est mieux d'investir, quitte à emprunter, quitte à serrer la ceinture, quitte à faire ci, quitte à faire ça, parce que après ça, vous allez générer des revenus ou bien vous allez améliorer votre vie. Est-ce que c'est vraiment la vie que vous avez rêvé d'avoir, etc. Et puis, il y a la fameuse image de « j'étais paumée dans le passé, maintenant, j'arrive à pécho des belles filles. » c'est vraiment ça. Pour les garçons, je trouve que ça joue beaucoup sur ça, sur la voiture et les nanas qui vont avec. C'est ce qui attire aussi les profils qui sont plus timides, qui ont certaines difficultés sociales et qui sont en cours de développement de capacités pour avoir justement des relations sociales, des copines comme ils en ont envie, etc., etc. Et donc là, c'est un peu aussi un danger. Par exemple, ce dont je parlais avec les assurances, c'était ce qui se passait quand je voyais des amis à moi. Ils étaient dans des difficultés avec des filles ou des choses comme ça. Et ils voyaient le gars qui était comme eux avant et qui maintenant, il a une belle femme avec lui, à Lamborghini, etc., etc. Et donc, c'est ça aussi qui les attire.
Donc, ça, on retrouve des classiques, effectivement, du monde de l'influence, finalement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sarah. Bonne soirée. Nous avons Menet PV qui
prend la parole.
Bonsoir.
Bonsoir. Du coup, oui, je vous écoute un peu depuis tout à l'heure et je suis surtout auditrice de la chaîne Méta de Choc. En l'occurrence, je pense que le lien qu'il y a avec tout ce système, c'est surtout la dopamine, dans le sens où ils te disent tout ce que tu as envie d'entendre. Et en fait, quand tu es au plus mal, quand tu es tout en bas et que ça ne va pas, que quelqu'un te dise « mais il y a quelque chose en toi, t'as une pépite » ou alors « éloigne-toi de ces gens néfastes, négatifs, etc. » Enfin, qu'on te pousse constamment à être heureux, à être bien, à sourire, etc. Et que toute tristesse, toute déception est mal vue, alors que c'est typiquement humain et que c'est normal, bah, en fait, ça ne m'étonne pas que quand on regarde des snaps, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de Marc Blatta qui te montre constamment la belle vie et qui te dit, mais en fait, c'est facile, c'est simple, pourquoi toi, tu ne l'as pas alors que tu peux l'avoir ?
Oui, il y a un côté secret moi, j'ai et que je vais vous révéler. Voilà, et il suffit de venir avec moi et regarder, je suis la preuve vivante que
exactement.
Le secret marche.
C'est que déjà, de un, on vous dit ce que vous voulez entendre parce que vous vous sentez au plus bas, mais ces gens-là que vous voyez au-dessus de vous, ils vous disent, mais non, mais t'es comme moi en fait, regarde, t'es ça, t'as ci, t'as ça, t'as... Et en fait, vous avez tout ce que vous voulez entendre. Et dès lors que vous partez de l'application Snap, peut-être vous vous comparez aux autres, et c'est ce qu'on a avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a eu un reportage intéressant de Arte qui dit que, enfin là, ça, je crois que ça parlait de la dopamine, ouais, enfin je sais pas, là, il y a deux, trois...
Alors, faut faire attention avec la dopamine, hein, pas la mettre à toutes les sauces, parce que on entend beaucoup en ce moment le fait que la dopamine serait ce qui nous rend accro aux réseaux sociaux.
Oui.
Et il faut faire attention parce que c'est plutôt un mythe.
Ah bon,
ça dépasse.
Du moins, c'est un gros raccourci, on va dire. Un très gros raccourci.
C'est un très gros raccourci. Il vaut mieux éviter d'avancer cet argument-là. Mais moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, bah parce que d'un point de vue neuroscientifique, ça se vérifie pas. Mais bon, il faudrait du temps pour l'expliquer. Mais j'en parlais notamment avec un de mes invités qui s'appelle Albert Moukébert et qui est neuroscientifique, qui est en train d'écrire un bouquin là-dessus, justement pour essayer de déconstruire ce mythe-là autour de la dopamine.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on est accro ?
Alors justement, je pense qu'il y a un aspect que vous décrivez, c'est le fait d'être entendu, d'être pris en compte, le fait d'avoir de l'espoir, le fait de se dire qu'on peut avoir quelqu'un qui s'occupe de nous, tout simplement, hein, parce qu'un coach, il est là pour ça, pour s'occuper de nous, pour s'intéresser à nous et pour nous donner des solutions. Donc sans forcément aller chercher du côté de la dopamine ou de l'addiction, finalement, le fait d'être entendu, c'est déjà énorme et ça peut être un réconfort énorme, sauf que quand on donne sa confiance à quelqu'un qui finalement est plutôt là pour nous arnaquer, ça mène à des catastrophes.
Mais du coup, est-ce qu'on peut voir un lien? Déjà, il y a ce lien de gourou, hein, enfin, d'une secte un peu, parce qu'on a du mal à son...
Oui, il peut y avoir une dépendance, effectivement. Il peut y avoir une dépendance à la personne, une dépendance qui peut devenir affective, qui peut être financière également à un moment donné, parce qu'on a tellement donné d'argent que finalement, on se dit, je ne peux pas m'arrêter là au milieu du guet, parce que je ne veux pas me dire que j'ai fait une erreur, parce que je veux me rattraper un peu comme un joueur veut se refaire. Il y a toujours de l'automanipulation dans la manipulation. C'est ce sur quoi jouent les manipulateurs, hein, finalement. On est leur meilleur allié, quelquefois.
Et le fait que le coach leur dise « Vous n'êtes pas manipulable facilement, regardez, vous êtes là parce que vous m'avez choisi. » Donc, oui. Il y a encore ce rapport de faire croire qu'on a ce diplôme.
Alors, vous êtes là parce que vous m'avez choisi, ça fait partie de ce dont je parlais en début d'émission, l'étiquetage. Vous faites partie de ceux qui savent, de ceux qui sont futés, de ceux qui se font pas avoir ou qui trouvent les bonnes solutions là où les autres, finalement, suivent le courant comme des moutons, quoi. Donc, c'est valorisant, effectivement.
D'accord. Merci.
Moi, je voulais faire intervenir un petit peu Chris. Alors, Chris,
bonsoir.
Bonsoir. Tu as été, je ne sais pas exactement où tu en es, une professionnelle de la formation professionnelle.
Merci.
De par ton métier. Et j'ai parcouru notamment les formations de coaching validées au sein du répertoire RNCP, que tu connais bien.
Pas par cœur.
Et donc, j'ai vu qu'il y avait des formations certifiantes RNCP inscrites de coaching. Et parmi celles-ci, il y a un lien. Donc, sur le site de l'État,
d'accord,
il y a un lien qui mène vers un site dont je vais vous faire la lecture très rapidement, juste les grands titres, pour vous dire à quoi il forme. Donc, vous avez formation au métier de coach professionnel RNCP, formation au métier de coach de vie, formation au métier d'hypnothérapeute, formation au métier de praticien en thérapie brève, formation de praticien en PNL, formation à la découverte de l'hypnose ericksonienne, formation à l'anamnèse thérapeutique, formation en sexothérapie, Voilà. Donc cet institut de formation, c'est un institut de formation qui délivre une formation certifiante RNCP, donc qui peut être prise en charge par le CPF, peut-être. Et donc, moi, du coup, ça m'a fait me poser un peu des questions.
Bon. oui, les dispositions gouvernementales mettent normalement en termes des qualités de la formation qui se basent sur d'excellentes intentions. Avec les processus RNCP, qui est le répertoire national des certifications professionnelles, il est géré par France Compétences. Donc ça, c'est pour certifier la qualité d'une formation. Et vous avez Calliope qui, lui, va certifier l'organisme de formation. Donc ça, ça a été mis en place. Normalement, bah, c'est censé vous garantir la qualité d'une formation que vous avez sélectionnée, etc. Enfin, pour pouvoir aussi utiliser votre CPF ou prétendre à demander un autre moyen de financement, hein, tel que les OPCO, les régions ou Pôle emploi. Le souci, c'est qu'il y a eu des dérives. Et il y en a encore. Et je pense que celle que tu as pointée en fait peut-être partie. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un processus administratif pour être inscrit au RNCP. Puis bah, certains, ils en ont fait un business. Quoi. Ça va permettre une certification de qualité, de formation, qui ne sont pas bonnes, en fait. Il y a un business, peut-être... en fait, derrière. C'est vraiment, ça a été conçu spécifiquement pour générer du chiffre. Enfin, c'est un peu du copier-coller. Pour choper la certification Calliope, il y en a qui sont prêts à débourser entre 8 000 et 12 000 euros. On va leur donner tout le process administratif à faire et il va falloir attendre peut-être un an pour avoir un véritable contrôle derrière.
D'accord. Est-ce que, Elisabeth, vous pouvez réagir par rapport à cet organisme de formation ? Donc, il a une certification RNCP. Mmh. Donc, a priori, je me dis gage de sérieux et tout. Mais d'après les grands titres là, est-ce que je dois m'alarmer ?
Oui, vous pouvez vous alarmer. On retrouve PNL, thérapie brève qui veut tout et rien dire. Quand on a le terme thérapie, on se dit tiens, c'est sérieux, ça doit être de la psycho. Ben non, en fait, c'est pas réglementé, donc tout le monde peut se dire thérapeute en France en tout cas. Hypnose et sexothérapie, là c'est pareil, tout le monde peut faire de l'hypnose et de la sexothérapie, c'est pas réglementé. Et pourtant, ce sont des pratiques qui peuvent devenir dangereuses. Hein. En hypnose, on peut avoir des faux souvenirs induits, on peut avoir de la mise sous emprise. Après, sur ce site, il y a marqué maître praticien. Donc là, c'est du vocabulaire un peu spécial hein, quand même. Maître praticien, ça fait un peu spiritualité. On retrouve ça aussi chez les maîtres Reiki, par exemple, qu'on citait tout à l'heure. Donc moi, ça m'alarme, ça. Parce que pour moi, si c'est vraiment un centre de formation certifié, je trouve quand même très étrange que pour l'instant, on trouve rien de très sérieux. En fait, on a des termes.
Oui, il y a la formation coaching RNCP, c'est le premier truc. C'est voilà. Un petit peu le tampon qui valait tout le reste.
Ouais, mais il faut voir le reste, voilà, c'est ça. Après, on a des termes un peu pseudo-profonds, compliqués, comme par exemple entretien solutionniste. Bon, ok. Et juste pour boucler, hein, ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, traitement des traumatismes, addiction, TCA, donc trouble du comportement alimentaire. Formation en psychopathologie clinique, et quand on regarde ce que c'est 56 heures en présentiel. Bon, et puis la personne, quand on va voir qui c'est, bah, elle met en avant 20 ans d'expérience en formation, d'accord. Des références dans des grandes entreprises, ok. Et un appel à l'autorité, tout simplement, en fait, hein, le fait que, oui, elle a d'expérience et qu'elle a fait des formations en entreprise. Mais ça va pas plus loin, en fait. Derrière, moi, ce que ça me donne comme impression, sans y avoir passé une heure non plus, c'est qu'il n'y a pas de fond. Il y a beaucoup de formes.
Il n'y a aucune garantie pour un financement. Je vous le dis, Pôle emploi n'accepte pas de financer ces formations.
Ah bon ? Même si c'est de la sexothérapie validée ? De manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les pièges au niveau des formations qui, justement, normalement, donnent droit à un financement ?
Alors, oui, parce que bah, malheureusement, de voir des logos RNCP ou Calliope, ça ne garantit pas du tout des formations de qualité. Moi, j'encourage toujours les demandeurs à se renseigner. Le bouche à oreille, demander des avis, même dans son entourage, de regarder les avis sur Internet, de se faire aider par un conseiller en insertion professionnelle ou un conseiller en évolution professionnelle. C'est gratuit, c'est sur leservicepublic.fr. Vous avez juste à taper votre code postal et on vous délivre l'agence. De regarder s'il y a un site Internet aussi. Pareil, de checker les mentions légales pour voir si ça correspond bien avec l'activité. Faire attention quand un formateur vous envoie vers un WhatsApp ou vous envoie vers un Telegram. Ça, c'est vraiment...
Oui, ça, c'est gros.
Ah
réflexe,
oui, ouais. On est d'accord. Le site, ça permet de regarder aussi le catalogue de formation et puis de retrouver aussi les références du coach, ses formations, son expérience. Car pour moi, avant tout, un formateur, et là, je vais parler dans sa globalité, il forme sur ses domaines d'expertise. Et ça, ça demande des années pour monter en connaissances et en compétences. Moi, aujourd'hui, je peux former des personnes en tant que conseillère en insertion professionnelle, puisque ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'insertion. Mais malheureusement, on voit des coachs ou des formateurs, alors que ça soit même dans les finances maintenant, et désormais dans la santé, avec ce type de formation. Et je trouve que c'est pas suffisamment encadré, puisque c'est dangereux.
Merci pour tous ces conseils, Chris. Alors, Elisabeth, j'encourage chacun à tenter un petit peu l'expérience de vos contenus parce qu'ils en valent la peine, parce qu'ils apprennent à connaître des dérives, et donc ils permettent de se protéger, ils permettent de protéger éventuellement des gens de son entourage, et puis ils permettent aussi de mieux se connaître soi-même de manière générale. Donc au-delà, c'est un exercice, c'est une écoute en soi qui est intéressante, puisque... dans ce que vous proposez, ce ne sont pas des choses où on vous dit « on va vous raconter le grand secret de la vie, on va vous ouvrir de nouvelles perspectives ». Par contre, effectivement, on va apprendre à mieux se connaître, on va notamment apprendre à mieux connaître ses failles, les failles des autres. Pour autant, et j'aimerais peut-être qu'on finisse là-dessus, Elisabeth, si vous voulez bien, pour autant, ce n'est pas parce qu'on se connaît mieux, ce n'est pas parce qu'on connaît toutes ces techniques que ça nous protège.
Oui, c'est toujours intéressant, enfin ça peut l'être en fait, hein, si on s'y intéresse, de mieux se connaître et de connaître les techniques de manipulation. On peut avoir des informations qui nous permettent de faire attention, d'identifier les choses, mais ce sera jamais sûr à 100%, ça c'est clair et net. Après, s'intéresser à soi-même, essayer de comprendre ce à quoi on est sensible soi, c'est aussi la possibilité d'éviter de s'exposer en réalité à des choses dangereuses. Je discutais récemment avec la sociologue des croyances qui s'appelle Rémi Sauvert, et à la question « comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans une dérive sectaire ?», sa réponse était « ne pas s'y exposer ». Alors, c'est très compliqué, et ça m'a fait rigoler quand elle a dit ça, parce que je me suis dit « mais comment est-ce qu'on peut ne pas s'exposer à une dérive sectaire ?» parce qu'on ne sait pas qu'elle arrive, en fait, on ne la voit pas venir. À moins d'aller directement dans les bureaux de la scientologie, voilà, la plupart des dérives sectaires, on les identifie pas a priori. Voilà, il y a aussi, et c'est ce que dit mon invité Rémi Rivas dans l'émission sur le coaching, lui, il était conscient, et c'est ça un peu qui l'a sauvé, il était conscient de certaines de ses failles, que je ne vais pas nommer ici pour ne pas spoiler, mais du coup, il avait un petit garde-fou, et il l'a sorti de sa manche au dernier moment, in extremis, et c'est ça qui l'a sauvé, voilà. Donc, quelquefois, quand on connaît ses propres failles, quand on connaît les choses qui nous font plaisir, les choses vers lesquelles on va aller naturellement, se dire « attention, attention, ça me fait très plaisir à ce que j'entends maintenant, est-ce que je vais pas prendre une heure ou deux, voire quelques jours, voire une semaine pour réfléchir avant de m'engager ?» Ça, c'est quelque chose qui peut être très utile. Sur le coup, on le voit pas venir, mais si on a cette espèce de réflexe, parce qu'on se connaît, ça peut... nous épargner certaines souffrances, certaines arnaques.
Oui, sans spoiler, il y a une technique dont il parle, et je pense qu'elle est valable pour beaucoup de choses, qui est de se dire « je ne vais pas faire d'achat d'impulsion ». C'est-à-dire que s'il y a une grosse somme qui est en jeu, même si on me met la pression, je sais à l'avance, je me mets ça comme règle incontournable, que je n'achèterai pas le jour même. Et je pense que c'est effectivement une bonne technique pour éviter, au-delà du problème du coaching, pas mal de problèmes.
Tout à fait.
Si cette émission vous a plu, pensez à mettre un pouce, un cœur ou des étoiles sur votre appli de podcast. J'aimerais aussi beaucoup que vous me disiez en commentaire ce que cette émission a fait émerger chez vous comme réflexion ou questionnement sur vos propres processus mentaux. Vous êtes-vous déjà fait avoir par les techniques de manipulation que j'ai décrites ? Vous êtes-vous laissé séduire par des offres de coaching qui se sont avérées vides ou dangereuses ? Et quels moyens vous donnez-vous aujourd'hui pour éviter de succomber au chant des sirènes ? Dites-moi tout. Et comme promis, voici le nom de la fameuse mentor qui n'est pas coach, mais qui propose tout de même un coaching personnalisé à prix d'or. Les plus experts d'entre vous auront sans doute reconnu Chloé Bloom. Savez-vous que ce podcast humble et superbe n'existe que grâce à vos dons ? S'il vous est utile et que vous pensez qu'il peut être utile à d'autres, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel en cliquant sur le lien en description vers les plateformes participatives. Merci encore et toujours à celles et ceux qui soutiennent MetaChoc. Vous êtes formidables. Dans la prochaine émission, il sera question de sortie hors du corps, de voyage astral et de shifting. Un sujet passionnant qui a récemment donné lieu à des découvertes scientifiques étonnantes. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.